Nous avons besoin de toi, Seigneur. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes vides sans toi. Toi seul peux nous combler, Seigneur. Car toi seul peux donner une forme à ce qui est informe. Toi seul peux éclairer ce qui est ténébreux. Toi seul peux redresser ce qui est courbé. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Auteur du monde visible et invisible. Toute la création te célèbre. Toi le Dieu souverain, le Dieu mystérieux. Toi le Dieu incommensurable. Qui peut sonder tes voies, qui peut te connaître, si ce n'est que par la révélation que tu te donnes toi-même. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui es parmi nous en esprit. Et nous saisissons encore une fois, par notre foi, le mystère de ta présence. Que ton nom soit béni ce matin, au nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Et ensemble avec ton peuple et racheté de l'agneau, nous pouvons dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez dans les limites fixées par Dieu. C'est fondamental, ce que nous avons commencé à voir, comme je vous l'avais dit, parce que finalement, même marcher avec Dieu, là, si nous ne comprenons pas les limites de Dieu, on ne pourra pas marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut connaître les limites de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir justement le Dieu des limites. On a touché le dimanche passé sur rester dans les limites de Dieu avec un aspect important sur la prière. On va revenir là-dessus. Mais j'ai voulu commencer par un élément très fort pour revenir justement à réellement ce que c'est. Donc nous allons pas beaucoup parler, mais plutôt beaucoup lire. Et vous allez vous rendre compte à travers les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, notre Dieu est un Dieu qui fixe toujours des limites. Toujours. Et d'ailleurs, le livre des origines commence par les limites de Dieu. Alors sans plus tarder, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles. Genèse chapitre 2, verset 15. Nous ferons plus de la lecture et j'expliquerai pas beaucoup, parce que la parole de Dieu parlera d'elle-même. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Donc ce matin, nous allons beaucoup lire la parole de notre Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Le livre de Genèse, le livre des origines, le livre du commencement. Genèse chapitre 2, verset 15. Alors, je vais lire ce passage des Écritures. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc déjà dans ce passage, vous voyez que après avoir créé l'homme, Dieu va le placer dans le jardin, c'est vrai qu'on appelle le jardin d'Éden, mais là vous allez voir que Dieu va fixer des limites. L'homme n'a pas été créé pour faire ce qu'il veut. L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Et Dieu, après avoir créé l'homme, il va lui donner le fil conducteur. Déjà, il va bénir l'homme, il va dire, voilà, il faut dominer, multipliez-vous, etc. Et là, Dieu va dire, vous pourrez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, parce que Dieu va les placer dans ce jardin-là. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le jardin d'Éden est un jardin que Dieu a placé sur la terre. C'est pas quand il a créé la terre, la végétation, il n'avait pas créé le jardin d'Éden. Après avoir créé la terre et tout ce qui s'y trouve, la Bible dit Dieu va placer un jardin. Le jardin d'Éden, c'était le jardin de Dieu. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui est à Dieu, là, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que ce qui est à Dieu, Dieu a dit, Dieu a fixé des limites. Il dit, voilà comment. Tu es dans le jardin, c'est vrai. C'est un jardin de délices, c'est vrai. Parce que toute la terre n'était pas Éden. Hein? La preuve, c'est que quand l'homme va pécher, Dieu va le chasser du jardin. Le jardin d'Éden est un environnement que Dieu va placer sur la terre. Et la Bible est claire là-dessus. Donc maintenant, Dieu va dire à l'homme que tu pourras manger de tous les arbres, ce jardin-là. Mais attention, il y a un arbre là. Il ne faut pas toucher. Là, nous voyons déjà les limites que Dieu fixe. Nous sommes à Éden. Genèse chapitre 9, 3 à 6. Nous allons continuer la lecture pour découvrir encore le Dieu des limites. Genèse 9. Nous avons vu avec Adam. Et dans le chapitre 9, nous voyons avec Noé. C'est-à-dire que la terre a été détruite, le jugement de Dieu est tombé. Et Dieu est dans un renouveau. Dieu est dans un nouveau départ. Et même avec ce nouveau départ, par rapport à la création, Dieu va encore fixer des limites. On ne fait pas ce qu'on veut. Genèse chapitre 9, verset 3. La Bible dit ceci. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe vers précision ici pour les lecteurs de la Bible. Avant le déluge, l'homme n'avait pas le droit de manger les animaux. Avant le déluge, l'homme était herbivore. Après le déluge, Dieu va rajouter, il dit bon maintenant, vous allez manger des herbes, mais bien plus, vous allez encore manger. Qu'est-ce qu'il dit les animaux là? Vous allez manger maintenant la viande, mais en précisant que vous ne mangerez pas le sang. En fait, ça voulait tout simplement dire, je médite encore là-dessus hier soir, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un cannibale. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il mange la nourriture comme les cannibales. Dieu ne nous a pas créé, on n'est pas des cannibales. Hein. Donc quand vous êtes dans le mode cannibalisme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la nourriture, les aliments doivent être cuits, préparés. Hein. C'est pas l'être est encore vivant et vous le mangez vivant, vous commencez à le manger vivant avec sa chair. Non, 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 tu n'es pas cannibale. Hein. C'est pourquoi il va redemander à tous ceux qui sont dans le cannibalisme, dans les meurtres et tout, ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors il dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu donne la précision. Il dit comme l'herbe verte, parce que l'herbe verte, c'est ce qu'il avait donné comme commandement à Adam, qui devait manger l'herbe, les herbes. Mais là, il dit encore, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Ça, c'est avec la nouvelle création, la nouvelle terre. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc, pas de cannibalisme. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Voilà, donc nous voyons ici, clairement, que Dieu reprend ce qu'il avait dit à Adam, mais il donne d'autres précisions. Parce que le multiplier, là, hein, remplissez, dominez, etc., il avait déjà dit ça à Adam. Mais là, il reprend avec Noé, avec des précisions. Donc, vous devez comprendre que là même, en lisant ce passage, vous vous rendez compte que même les animaux, Dieu dit que je redemanderai, il dit, je le redemanderai à tout animal. Alors hier, j'étais en train de méditer là-dessus, je me suis dit, mais Seigneur, donc, il y a une relation particulière que tu as même avec les animaux. Parce que en lisant bien ma Bible, je me suis rendu compte que Dieu a même inclus les animaux dans l'alliance de Noé. Les animaux également étaient concernés par l'alliance que Dieu va faire. Parce qu'il dit que je mettrai un arc dans le ciel. Il dit que ce sera le signe de l'alliance. Il dit, lorsque je verrai cet arc, je me souviendrai que je ne dois plus détruire la terre par les eaux, que ce soit les êtres vivants, les humains comme les animaux. Donc, l'alliance de Noé, finalement, quand vous lisez votre Bible, elle concerne même les animaux. Et Dieu dit même aux animaux, il dit que je leur redemanderai, je leur redemanderai à tout animal. C'est fort, hein? Il y a des choses qui nous échappent, mais qui sont une réalité. Dieu a une relation aussi particulière avec les animaux. Hein? Il ne parle pas avec eux, ou bien comme nous, on parle. Hein? Mais il y a quelque chose qui est entre les animaux et Dieu. Hein? Ça, je vous dis, hein, parce que quand vous lisez votre Bible, on dit même que c'est, les animaux espèrent en l'Éternel pour leur nourriture. Je me suis dit, mais si même les animaux espèrent en l'Éternel, je lisais encore ce matin, les animaux espèrent terre même pour leur nourriture ont l'Éternel. Il y a donc il y a quelque chose avec les animaux. Donc là, vous voyez que Dieu a fixé des limites. La terre a été lavée, nettoyée, mais Noé et ses enfants ne devaient pas faire ce qu'ils veulent. Dieu a donné le fil conducteur, Dieu a fixé des limites. Il y a des frontières, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors, nous continuons la lecture Genèse chapitre 17. Nous sommes toujours dans le livre des origines. Après Noé, nous sommes avec Abraham. Vous voyez, ce sont les figures emblématiques de la Bible. Hein. On a vu d'un côté Adam, de l'autre côté Noé. Et là, nous continuons notre histoire avec Abraham. Abraham, le père de la foi. Qu'est-ce qui va se passer avec Abraham? Genèse chapitre 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Pour marcher avec Dieu, il faut rester dans le cadre de Dieu. L'alliance de Dieu. Et avec Abraham, Dieu a fixé aussi un cadre. Il dit, toute ta descendance doit être circoncis. Vous ne pourrez pas marcher avec moi sans ça. C'est pourquoi, lorsque Moïse, le fils de Moïse, n'était pas dans ce cadre-là, Dieu est descendu pour exterminer, pour tuer. D'où je comprends qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans qu'on ne voit pas ces choses-là. Rester dans les limites que Dieu a fixées. On ne fait pas ce qu'on veut. Ce n'est pas juste dit que Christ nous a sauvés, alléluia, merci pour la croix, oui. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. Dieu a fixé des limites. Et nous allons continuer la lecture dans le livre d'Exode chapitre 19. Après cette figure emblématique qu'est Abraham, nous voyons une autre figure, c'est-à-dire Moïse. Ce sont les grands noms de la Bible, hein? Moïse, Exode chapitre 19. Dans Exode chapitre 19, nous voilà encore avec un autre peuple. Un peuple qui est sorti de la servitude d'Égypte. Un peuple qui n'a pas connu le Dieu d'Abraham. Un peuple qui n'a pas connu le Dieu de Joseph. Mais de par leur sang, ils étaient fils d'Abraham. Mais ils n'avaient pas fait l'expérience du Dieu d'Abraham. Donc Dieu était une histoire pour eux. Dieu n'était pas une réalité jusqu'à ce que ce Dieu-là se révèle à travers son prophète qui est Moïse. Maintenant, nous sommes à la sortie d'Égypte et le peuple se retrouve devant le mont Sinaï. Et c'est là que le peuple va rentrer dans un nouveau type de relation avec Dieu, dans une nouvelle dispensation avec Dieu qu'on appelle la dispensation de la loi. C'est une nouvelle façon de fonctionner avec Dieu. Et là, Dieu va expliquer quelque chose d'assez important dans Exode chapitre 19, alors le verset, au verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Écoutez bien verset 6. Hein. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et quand vous repartez un peu plus, plutôt en arrière, la raison qui a poussé Dieu à faire sortir ce peuple d'Égypte, nous découvrons clairement que Dieu a délivré ce peuple pour un but bien précis. Et le but, il nous le révèle. Au verset 12 déjà, du chapitre 3
de Exode, Exode 3, le verset 12. Exode 3, verset 12, la Bible déclare, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moïse, vous allez voir, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Moïse, vous allez voir que les mêmes paroles vont se répéter. Dieu va voir Pharaon, il va lui dire l'Éternel, plutôt Moïse va voir Pharaon, et va lui dire l'Éternel m'a envoyé pour que tu laisses aller mon peuple et pour qu'il aille me servir, pour qu'il aille me célébrer dans le désert. Donc vous voyez qu'il y a toujours un but. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est pas que vous avez tellement souffert en Égypte, mais non, chacun peut prendre sa route. Non, Dieu veut toujours canaliser son peuple. Tous ceux qui sont appelés du nom de Dieu doivent savoir que Dieu nous canalise toujours. On ne fait pas ce qu'on veut. Israël, pourtant, a longtemps souffert. Mais même après la sortie d'Égypte, Dieu a canalisé le peuple. Vous allez sortir, c'est vrai, c'est moi qui vous conduirai. Et vous allez me servir, mais pas à votre manière, mais selon ma manière à moi. Et c'est là que vous voyez l'institution ou bien la construction du tabernacle. Parce que c'était comme cela que Dieu voulait être servi. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. On doit marcher selon les voies de Dieu. Le salut est une chose, mais après avoir été sauvé, il faut comprendre. Maintenant, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ce Dieu-là, il attend de nous? Nous devons savoir comment marcher avec Dieu. Mais pour savoir comment marcher avec Dieu, il est important de savoir que le Dieu que nous prions est un Dieu qui fixe toujours des limites. Je dis bien toujours. Dans Exode 19, le peuple est là. Dieu leur explique que vous allez m'appartenir. Voilà ma vision pour vous. Ma vision pour vous, c'est que vous serez un royaume. Vous serez des sacrificateurs. Et vous allez remarquer qu'au moment où Dieu est en train de parler à Israël, le sacerdoce d'Israël n'est pas encore établi. C'est-à-dire que la sacrificature, les lévites n'existent pas encore. Mais Dieu révèle déjà sa volonté parfaite. Il dit que vous serez un royaume des sacrificateurs. Vous tous, vous serez sacrificateurs pour moi. Et vous voyez que cette pensée, elle revient dans le Nouveau Testament avec l'apôtre Pierre. Et elle revient encore dans l'Apocalypse où dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. Un royaume de rois, de prêtres pour Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu qu'on soit tous sacrificateurs, qu'on le serve tous, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire si ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une volonté. Le chrétien, celui qui est né de Dieu, il doit comprendre qu'il est canalisé. Avec Dieu, il y a des bornes. On ne fait pas ce qu'on veut. D'ailleurs, ça peut se justifier parce que dans nos familles naturelles, il y a des bornes aussi. Chaque famille a son éducation, n'est-ce pas? Il y a des limites. Il y a des familles où on dit par exemple aux enfants, chez nous vous ne rentrez pas après 20 heures. Ce sont des limites. Nous fixons même en tant que parents des limites à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu qui est notre Père ne fixera-t-il pas des limites? On ne fait pas ce qu'on veut. Même nos enfants ne font pas ce qu'ils veulent, nous les canalisons. Donc acceptons également que Dieu nous canalise. Maintenant, pour comprendre les limites de Dieu, c'est pourquoi je me vertue et je me vertuerai toujours à vous le dire. Frères et sœurs, ça se trouve là-dedans. Lisez la Bible, étudiez-la, méditez-la, vous découvrirez les limites de Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne saurez pas. Vous allez juste vous contenter du message de la croix, Jésus est mort pour le péché. Oui, et alors, et après la croix, qu'est-ce qui se passe? Puisque ce même Dieu n'a pas changé, comment on va servir Dieu? Lisez, étudiez, méditez et vous découvrirez les limites de Dieu. Et vous comprendrez qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et quand vous découvrez les limites de Dieu, encore une fois, frères et sœurs, n'empruntez pas les tunnels. Ah oui, hein, parce qu'il y en a qui laissent tomber à terre des paroles et qui prennent ce qui les arrange. Or, la Bible dit qu'il ne faut pas laisser tomber les paroles. La parole de Dieu doit demeurer. Même si ça ne nous arrange pas dans notre chair, mais elle est parole de Dieu. Et Samuel, j'aime bien l'exemple de Samuel, il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. C'est important, hein? Sinon on va chercher, et ce n'est pas bon. Donc avec Moïse, nous découvrons cela, Et nous allons aussi dans Exode, tout juste après que Dieu ait parlé à Moïse avant qu'il monte. Moïse est monté. Et pendant que Moïse est en conférence avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu va lui parler et va lui expliquer les limites par rapport à la vie de la nation. Exode chapitre 20 et le décalogue, les 10 commandements expliquent clairement les limites de Dieu. Le peuple est sorti d'Égypte, c'est vrai. Abraham n'avait pas le décalogue, c'est vrai. Mais Dieu va donner à la nation d'Israël, sous la conduite de Moïse, les décalogues, ce sont les limites. Alors Dieu prononça, Exode chapitre 20, verset 1er, toutes ces paroles en disant, quelquefois frères et sœurs, c'est important de relire ces passages de la Bible, parce que hier encore, quand je reméditais là-dessus, pourtant je connais le décalogue, mais c'était important pour moi de relire et de redécouvrir certaines choses qui au départ n'attiraient pas mon attention. C'est important de relire ces choses-là. Il ne faut pas dire, oh non, les 10 commandements, je connais. Non. Quand vous revenez, l'Esprit vous enseigne les choses autrement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Première limite. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que si Dieu n'avait pas fixé cette limite-là, par rapport à d'autres nations, vous remarquez qu'à travers les autres nations, les gens ont plusieurs dieux. Mais Israël, le seul peuple, Dieu a fixé des limites. Il a fixé des limites. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom en vain, car Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. Ah oui, même Jésus l'a dit, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est trop sacré. Vous vous rendez compte que même les Juifs, ils ne le prononcent pas. Le tétragramme, ils ne le prononcent pas. C'est nous qui donnons les Yahweh, les Jéhovah, là. Eux, ils ne le prononcent pas. Ça s'écrit, mais ça ne se prononce pas. Donc le nom de Dieu, il est sacré. Hein? On ne joue pas avec le nom de Dieu. Hein? Les choses de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Il y a tellement de sacrilèges. Alors que le Seigneur dit qu'attention, ce sont des limites. Hein? Avec déjà ce peuple, il dit voilà les limites. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le sabbat d'Israël. Les Juifs, dans leur marche avec le Seigneur, devaient trouver le temps de se reposer. Ouais, même si même l'amour de Dieu, il faut se reposer. Parce que s'il n'y a pas de limites, quelquefois, il y a des gens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que c'est une preuve d'amour de Dieu, pour que quand même, il faut s'arrêter un peu et se reposer. Mais reposez-vous. Et c'est ça le repos de Dieu. Et donc, celui qui n'allait pas respecter cela, il sortait des limites de Dieu. Dieu avait fixé un cadre et c'était important. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, mis à part. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honorons nos parents. C'est les limites que Dieu a fixées. Hein. Si on ne comprend pas ces limites-là, nous sommes dans des sociétés aujourd'hui où les parents, on s'en fout complètement. On ne les honore plus. Mais Dieu dit, les parents, il faut les honorer. La Bible ne dit pas que ce sont nos dieux sur la terre comme certains le pensent. Mais la Bible dit qu'il faut les honorer. Pourquoi? Parce qu'il y a une conséquence. Si vous n'honorez pas vos parents, vous n'allez pas vivre longtemps. Les enfants qui sont ici, écoutez-moi bien. Hein. Vous avez intérêt à honorer vos parents. Hein. Parce que si vous n'honorez pas les parents, vous suivez l'esprit du monde actuel, l'esprit de la rébellion, on fait ce qu'on veut là. Vous n'allez pas vivre longtemps. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous devons apprendre à honorer les parents. Si les parents vous envoient en études à l'étranger, faites l'école. Pas comme au Maroc, on avait des jeunes qui sont allés, les parents ont investi beaucoup d'argent pour leurs études et arrivés au Maroc, ils ont fait le désordre. Et les parents qui se sont même sacrifiés pour eux, pour leur envoyer les sous, ne se doutaient même pas que l'enfant là-bas faisait du n'importe quoi. Or, en faisant ainsi, ils n'honoraient pas leurs parents. Mais comment ne pas avoir des problèmes après dans la vie? Parce que quand les parents pensent à vous en termes de quand les parents soupirent, les parents ne vont pas vous maudire directement. Hein. Il y en a qui le font. Hein. Mais quand le parent il soupire, ils me disent l'enfant là vraiment. C'est déjà une malédiction. Parce qu'il a mal dans son cœur. Il a mal parce que tu n'as pas honoré le parent. Et ils sont pleins comme ça au Maroc, des jeunes. Les parents ont investi beaucoup d'argent, mais il faut les voir. Ils ont déshonoré les parents. Et l'argent, ils pensent que l'argent, ça se ramasse. L'argent ne se ramasse pas. Le coût de la vie n'est pas le même. Hein, quand les parents vendent même des terres, il y a eu des personnes où les parents ont vendu des terrains au pays pour les envoyer à l'étranger. Hein. Mais arrivé là-bas, c'était la liberté, hein, on fait ce qu'on veut. J'ai un de mes neveux qui a été envoyé au Maroc pour étudier. J'ai vu comment ma tante s'est sacrifiée pour mon neveu. Arrivé au Maroc, mon neveu, là, il a trouvé un groupe d'amis et ils sont rentrés maintenant dans le move, comme ils disent. Et dans ce move-là, l'école, c'était plus trop son truc, hein. Ils sont allés louer une voiture à Marrakech. Et ils conduisaient cette voiture-là en plus d'été en état d'ivresse. Hein, sans le permis. Il a tamponné un papa marocain. Il a tué, homicide involontaire. Mais il a tué. Hein. L'enfant a fait la prison au Maroc. Mon neveu là. Et quand j'ai appris que ton neveu là-bas a tué quelqu'un sur la route. Parce que dans leur bamboula, là, la fête qu'ils ont faite à Marrakech là. Voilà ce qui est arrivé. J'ai dit, mais le pauvre enfant, il était venu pour faire l'étude, l'école. Sinon là, les parents, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est là que je me suis dit, vous voyez les jeunes d'aujourd'hui. Les parents se sacrifient et comme ça, pensaient qu'il a honoré ses parents. Mais ça, là, il est rentré au pays, je ne sais pas quel miracle, comment ça s'est passé, comment on a tout fait, comment les parents se sont décarcassés là-bas, les avocats, l'argent, plein de choses sont rentrées en jeu là-dedans pour que vite on le fasse repartir au pays. Mais pensez qu'un enfant comme ça, il a honoré ses parents. Ils se sont sacrifiés pour lui, pour l'envoyer à l'école. Il n'a pas fait l'école comme il se devait. Non seulement il va aller tuer quelqu'un là-bas, il faut encore chercher encore de l'argent pour le faire sortir et le ramener au pays. Vous voyez cette malédiction là sur les jeunes? Parce qu'il y a des principes que les jeunes ne comprennent pas, qui ne sont pas seulement pour les chrétiens, ça concerne tout le monde. Si nous n'honorons pas nos parents, frères et sœurs, nous n'allons pas vivre longtemps. Ça, je vous dis la vérité, c'est comme ça, c'est ce que Dieu il a dit. Alors, il dit ceci, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Chien. Voilà à travers le décalogue, en partie, les grandes limites que Dieu a fixées pour le peuple. Et vous vous rendez compte qu'à chaque nouvelle œuvre de Dieu, quand Dieu veut faire entrer un peuple ou bien un homme dans quelque chose de nouveau avec lui, il fixe toujours les limites. On ne peut pas commencer comme ça. Non, Adam, tu vas commencer, d'accord, mais voilà les limites. Noé, c'est vrai, c'est une nouvelle terre qui est là. Voilà les limites. Abraham, tu vas marcher avec moi. Voilà les limites. Le peuple, vous êtes sorti d'Égypte. Voilà les limites. Et je vais encore plus loin, ils étaient dans la diaspora, dans l'exil. Dieu permet à travers Cyrus que le peuple de Juda sorte de leur captivité pour qu'ils repartent à Jérusalem. Et là encore, Dieu dit, ils vont sortir, mais pour aller à Jérusalem, pour rebâtir ma maison. Il y a toujours un cadre, il y a toujours une orientation. Et voilà que ce peuple, en revenant de la captivité, retrouve ses terres et a oublié pourquoi Dieu les avait ramenés. Et chacun a commencé à faire ses affaires, ils ont oublié l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez la prophétie d'Agée. Dieu, à travers Agée, rappelle au peuple. Il dit, mais voilà, vous avez oublié. Pourquoi je vous ai fait sortir? C'était pour la priorité, les intérêts de Dieu. Pour chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement, Dieu n'a pas demandé à Adam de cultiver la terre. Dieu a demandé à Adam de cultiver la terre d'Éden, pas toute la terre. C'était le jardin de Dieu qui était la priorité. Il devait cultiver et garder le jardin de Dieu en priorité. Ce qui était à Dieu. Pas la terre de façon générale, c'était Éden. Là où il devait travailler. Jésus a dit, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est la priorité. Les limites sont fixées. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a plusieurs passages dans vos Bibles, pour les lecteurs, vous allez découvrir au fur et à mesure que vraiment ce que j'ai dit est vrai. Dieu fixe toujours des limites. Je dis bien toujours. Toujours. Et lorsque les limites, vous les comprenez, ça va vous permettre de marcher. Parce que ça trace le chemin. Vous savez que je ne dois pas aller à gauche, je ne dois pas aller à droite, je dois rester là. Mais parce que Dieu ne peut pas ne pas nous laisser des repères. Il y a des repères. Dieu n'est pas insensé. Même la société nous donne des repères. La route, là, il y a des repères. Il y a des limitations de vitesse. Hein. Il y a des panneaux qui vous disent, voilà, là-bas, à 300 mètres ou 300 kilomètres, vous allez aller dans la direction de Paris. Nous vivons dans un monde où il y a des repères. Et Dieu lui-même est un Dieu de repères. Et les repères de Dieu sont là-dedans. C'est là-dedans qu'il y a les repères, frères et sœurs. Vous n'allez pas, Seigneur, prier. Oui, vous pouvez jeûner, prier. Mais tous les repères de façon générale sont là-dedans. Les repères de façon particulière qui concernent votre relation particulière avec Dieu, ça c'est quelque chose de personnel. Hein? Mais de façon générale, les grands repères de Dieu se trouvent là-dedans. Dans la Bible, c'est dans sa parole qu'il y a le cadre, le fonctionnement. Et ça, frères et sœurs, nous devons le comprendre, qu'il y a des limites. Dieu est un Dieu de limites. Et même les enfants d'Israël, lorsque Moïse devait monter sur la montagne, Dieu avait dit, il avait fixé un périmètre. Il dit, vous n'allez pas dépasser ça. Il dit, mais et vous et les animaux, hein? Vous n'allez pas aller au-delà de ce périmètre-là. Même lorsque les enfants d'Israël étaient dans le cortège avec l'Arche de l'Alliance, il y avait une distance entre les sacrificateurs qui portaient l'Arche et le peuple. Dieu a fixé toujours des limites. Il n'a pas dit, ah, vous allez vous coller avec l'Arche. Non, non, il y a toujours, toujours des limites avec Dieu. Toujours. Et Dieu n'a pas changé, même dans la Nouvelle Alliance. Nous voyons que Dieu a fixé des limites. Dans sa parole. Les limites, ce sont ses instructions. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'elle nous dit. C'est la loi de l'Éternel. Ce que Dieu dit. Dieu a fixé des limites toujours. Jésus est venu, il a expliqué sa grande conférence sur la montagne, le sermon sur la montagne. Il a expliqué le royaume de Dieu, il a expliqué les limites. Que voilà ce que doit être un fils du royaume de Dieu. Et voilà ce que ne doit pas être un fils du royaume de Dieu. Ça, ce sont des limites. C'est-à-dire, quand vous allez au-delà de ce que lui, il recommande, vous vous retrouvez en infraction. C'est pourquoi le sermon sur la montagne, c'est un moment très fort dans le ministère de Jésus, parce que vraiment, il explique le royaume de Dieu et ceux qui font partie de ce royaume-là, les limites. On ne fait pas ce qu'on veut. Et il a pris le soin de nous expliquer ça. Il n'est pas seulement venu faire du bien. Non, non, non. Il a fait du bien, mais il a aussi expliquer la vision de Dieu. Et ça, c'est important que nous le sachions. C'est pourquoi je vous encouragerai à relire votre Bible. Relisez les évangiles, relisez le Nouveau Testament, relisez le sermon sur la montagne. C'est pas à négliger. Relisez le sermon sur la montagne. Parce que Jésus-Christ nous révèle beaucoup de vérités. Et toutes ces vérités qui sont dans le sermon sur la montagne nous expliquent les limites que Dieu a fixées pour ceux qui font partie de son royaume. Avec, pour conclure, cette fameuse loi royale, ou bien ce que d'autres appellent la règle d'or, ce que tu veux qu'on te fasse là, fais-le aux autres. Si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas du mal aux autres. C'est la règle d'or. Vous voulez ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça aux autres. Tu veux qu'on te fasse là, fais ça aux autres. C'est la règle d'or dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas le complice des méchants. Hein. Dieu est juste. Dieu est pour la justice. Dieu est pour la justice. On ne peut pas être méchant et puis avoir Dieu de notre côté, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas du côté des méchants. Dieu ne peut pas être à côté des méchants. Donc c'est important que nous comprenions que notre Dieu est un Dieu de limites. Les limites, ce n'est même pas Dieu, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des amalgames. Dieu n'est pas limité, mais il fixe des limites pour nous. Lui n'est pas limité. Hein. C'est nous qui avons des limites dans le fonctionnement de la marche avec Dieu. Lui n'est pas limité. Hein. Les limites, ce n'est pas pour lui. Hein. Les limites, c'est pour nous. C'est pour nous permettre de vivre en harmonie avec lui. Ce n'est pas pour lui. Hein. Dieu n'a pas besoin d'être borne. Hein. Il existe par lui-même. Hein. Il ne dépend pas d'un système et tout. Dieu, il est Dieu. Hein. Mais les limites dont nous parlons, ce sont les limites que Dieu nous fixe. C'est le fil conducteur. Ce sont les repères. C'est le cadre que Dieu met en place dans notre vie pour nous permettre de marcher avec lui. Et de pouvoir profiter pleinement de notre relation, de notre communion avec lui. Ce n'est qu'un cadre de fonctionnement et d'épanouissement avec Dieu. Si nous sortons de ce cadre-là, nous n'allons pas nous développer avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas dans les limites qu'il a fixées. Parce que les limites que Dieu fixe, c'est là qu'il nous donne rendez-vous. C'est là qu'il nous bénit. C'est là qu'il nous sécurise. C'est là qu'il nous protège. C'est dans les limites qu'il a fixées. Quand vous sortez de là, il n'y a plus de faveur divine. Il n'y a plus de bénédiction. Il n'y a plus de protection. Vous êtes exposé. Donc c'est un moyen de protection en vérité. C'est comme je vous l'avais dit le dimanche passé. Ne voyez pas dans la Bible des choses qui sont contre vous. Dieu n'est pas contre nous. Ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Même quand la Bible, il faut obéir à la parole de Dieu. C'est pour notre bien. L'obéissance n'est pas une corvée. L'obéissance, c'est pour notre développement. Ce n'est pas une corvée. Donc tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Même si dans notre chair, on ne supporte pas certaines choses, en vérité, c'est pour notre bien. Nous avons à gagner dans tout ce qui est dit là-dedans. Tout ce que Dieu nous recommande est bon. Je vous dis la vérité, c'est bon. Hein? Ça ne nous arrange pas toujours dans la chair, mais c'est bon, selon Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est le bon, c'est l'agréable et c'est le parfait. Donc c'est important que nous puissions le comprendre. Donc on va prier, on va s'incliner et que Dieu nous aide à pouvoir comprendre qu'il a fixé des limites et qu'il nous donne vraiment de rechercher dans sa parole ces fameux repères, les bornes que Dieu a mis en place pour nous permettre de pouvoir nous développer dans notre communion avec lui. Donc tu vas prier pour toi-même, pour dire « Seigneur, vraiment ouvre mes yeux pour que je comprenne les repères que tu as mis autour de ma vie et que je marche, non pas comme je le veux, et que je marche, non pas comme je le pense, mais que je marche comme toi tu le veux, Seigneur, car nous sommes là sur cette terre pour faire ta volonté et non notre volonté, pour chercher les intérêts de ton royaume et non pour notre propre royaume à nous, notre empire personnel. Nous sommes là pour que Christ soit glorifié, honoré à travers notre vie. Alors Seigneur, je te prie pour moi-même parce que nous sommes tous dans la marche et nous avons besoin de comprendre que dans cette marche, tout au long de cette marche avec toi, de son commencement à la fin, Toi, tu as fixé des repères. Ouvre nos yeux comme l'automobiliste, Seigneur, qui doit faire attention aux différents panneaux de limitation de vitesse, aux différents panneaux qui indiquent les différentes sorties. Seigneur, je prie que tu ouvres mes yeux chaque jour afin que je puisse voir les différents panneaux, pour ma vie, pour ma survie, des différents panneaux qui m'indiquent les accidents, les différents panneaux qui m'indiquent que les limitations de vitesse, mes excès, Seigneur, que je puisse voir. Ouvre mes yeux, Père, je t'en prie, ce matin, au nom de Jésus-Christ, afin que je marche, non pas en imaginant comment marcher pour toi et avec toi, mais que je marche selon ta parole, Seigneur. Car le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Oui, Seigneur, éclaire-nous encore par ton esprit, et que tout au long de cette semaine, que tu nous instruises encore, que tu nous enseignes encore par le Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher convenablement, comme des fils et des filles du royaume de Dieu. Alors que ton nom seul soit béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père et notre Dieu. Nous avons ainsi prié ensemble pour dire Amen. Alors je vais inviter le frère Alain Joseph qui va nous partager quelque chose, un songe, quelque chose comme ça qu'il a reçu. Et après j'inviterai la sœur Mimi à clôturer ces moments. Par la prière, qu'on va prier les uns pour les autres, hein. Tu clôtureras pas. Voilà.